Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission qui vous résume en une heure et demie l'actualité du jeu vidéo. On écume tous les blogs, on fait tous les salons, on prend toutes les infos et on vous les restitue de manière distrayante et compréhensible. J'espère qu'on réussira dans notre mission aujourd'hui aussi et je suis certain qu'on y arrivera puisque j'ai avec moi pour m'accompagner dans cette émission le grand, l'unique, le seul, Daniel, mon ancien camarade d'Azeroth.fr. Comment vas-tu, Dani?
Eh ben écoute, super bien. Bon, même si Azeroth.fr me manque beaucoup, évidemment, mais ouais. Je pense qu'on on est pas les seules deux personnes dans ce cas-là.
Oui, évidemment. Non, mais c'est sûr, mais on réussit à refaire naître la magie de temps en temps dans le rendez-vous jeu. Faudrait qu'on demande des nouvelles de Nat, tiens. Ça fait un moment que je lui ai pas parlé. On lui enverra un petit SMS.
Ben oui.
Mais on a aujourd'hui un programme intéressant. On a d'une part la Paris Games Week qui a eu lieu, enfin, qui est en plein, on est en plein dedans maintenant. Moi, j'y étais passé hier pendant la journée presse. Et il y avait la conférence Sony qui a eu lieu également hier encore. Coordination avec la Paris Games Week. Et il y a aussi la sortie d'Overwatch, de la bêta d'Overwatch, dans laquelle j'ai eu la chance et le bonheur de participer. J'ai reçu mon accès bêta. J'étais pas certain, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
C'est du favoritisme, si... hein, je pense. Hein. Bah, écoute, tu vas te faire écharper là, par les auditeurs.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les places sont chères. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, full disclosure, éthique, c'est tout ça. J'ai travaillé chez Blizzard pendant 5 ans, donc on aurait pu se dire, c'est sûr, il va avoir une place. Moi-même, certainement, j'étais pas certain. Je sais comment ça se passe. Je sais comme les places sont difficiles à avoir. Pour y avoir été et pour avoir fait Overwatch et Hearthstone et d'autres bêtas, je peux vous dire que j'avais pas hyper confiance, mais finalement ça s'est bien passé. Donc je vous donnerai mes premières impressions là-dessus aussi. Mais commençons, et puis on a d'autres petites news, la Nintendo NX, etc. Mais commençons par la Paris Games Week et plus particulièrement la conférence de presse de Sony. Qui a eu lieu donc en fin de première journée de journée presse de Paris Games Week et qui n'a pas eu énormément de nouvelles informations fracassantes, mais qui a quand même des petits morceaux ici et là qui sont intéressants. Comme d'habitude, ils ont beaucoup insisté sur les jeux qu'ils ont avec du contenu exclusif ou des jeux exclusifs, qui, même s'ils ne sont pas hyper nombreux pour cette fin d'année, commencent à s'empiler. Tu as un rendez-vous qui arrive, Dani.
Voilà, mais je vais mettre mon PC en mute, comme d'accord. Ça, il n'y en a plus.
Donc, il parlait de Call of Duty, de Battlefront. D'ailleurs, j'ai pas réussi à savoir quel contenu était exclusif sur Battlefront, mais bon. Ils ont confirmé le prix réduit qui avait déjà été confirmé un petit peu avant, le prix réduit de la PlayStation 4. On en parlait à l'épisode précédent. Eh bien, ça a eu lieu. Elle est maintenant à 349€. Elle s'est alignée sur le prix de la Xbox One. Mais on a eu aussi quelques jeux dont on a entendu parler un petit peu plus. Et certains étaient relativement intéressants. J'ai surtout bien aimé, par exemple, Detroit de Quantic Dreams qui est mené par David Cage qu'on connaît bien pour des jeux qu'il a développé avant. C'est un développeur français. Il y avait aussi Wild de Michel Ancel de son studio Wild Sheep. Michel Ancel est l'ancien développeur d'Ubisoft qui était derrière les Rayman. Donc deux personnalités françaises qui ont été mises à l'honneur à la fin de la conférence, ce qui était sympa pour une conférence en France. Alors, Detroit, ça avait l'air sympa, mais on sait rien du gameplay. On est un androïde qui vit dans un monde d'androïdes futuristes où tous les androïdes sont utilisés comme des robots pour faire différentes choses que les humains veulent pas faire. Sauf que elle essaye d'être humaine, ou elle essaye de comprendre ses sentiments qui la rendent humaine, etc. Ça t'a parlé? Je sais que toi, t'aimes bien les jeux Quantic Dream d'habitude.
J'aime bien les jeux Quantic Dream. Enfin, j'ai surtout aimé Heavy Rain, en fait, que j'avais adoré. Mais je sais pas si on peut vraiment parler d'un jeu plus que peut-être une sorte de film interactif ou Ouais, moi je vois plutôt ça en fait comme un film interactif, parce que finalement c'est pas des jeux qui ont un gameplay extrêmement poussé, mais plutôt un, je pense,
Une
un
histoire,
scénario et
ouais.
des choix qui sont assez assez profonds et intéressants. Donc moi ça me parle de toute façon. Détroit, je pense que je l'essaierai. Enfin, on verra ensuite quand ça sortira, hein, mais effectivement moi c'est une des annonces qui m'a le plus parlé de la présentation de Sony.
C'est une exclusivité PlayStation. Par contre, là, c'est vraiment dans le futur. On ne sait pas ni quand ça va sortir, ni etc. Mais effectivement, Quantic Dream, entre Beyond Two Souls et Heavy Rain, ils font des jeux qui sont plus narratifs que gameplay. Wild avait l'air un petit peu étrange aussi. On joue dans un univers un petit peu sauvage, comme son nom l'indique, et on joue un chaman qui peut prendre le contrôle de différentes créatures pour arriver à ses fins. En l'occurrence, sur la section de gameplay qu'on a vu, il y avait un des membres de sa tribu qui était mordu par un serpent venimeux, et pour le sauver, il a dû prendre le contrôle d'un aigle, et puis l'aigle a attrapé un serpent, et puis il a pris le contrôle d'un lapin pour aller vers, pour traverser un camp plein de cannibales, et puis il a été vers des corbeaux dont il a pris le contrôle pour distraire les cannibales, et puis il est arrivé dans le tas avec un ours. Enfin, c'est tout un tas de trucs qui sont des gameplay relativement originaux. C'est joli, c'est moins joli que Detroit, qui était très joli, mais c'est relativement intéressant comme direction artistique. Là encore, la question, ça t'a plu, ça t'a intrigué?
Écoute, ça m'a intrigué. Le souci en fait de jeu en général, c'est que j'ai l'impression que ça se base sur un concept intéressant, mais qu'en souvent on est en général déçu ensuite en termes d'expérience de jeu. Donc à voir, hein. Enfin, je l'ai pas essayé, j'ai juste vu une vidéo de quelques minutes. Donc à voir.
Ouais.
Mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse en fait là-dedans, et vraiment ce qui était assez bien, c'est que finalement il y a deux grands studios français qui annoncent des jeux quand même importants sur une console pendant la Paris Games Week. Et moi je trouve que c'est surtout ça en fait qui est marquant, plus que les jeux eux-mêmes à proprement parler, parce que pour l'instant c'est juste des concepts qu'on n'aura pas pu essayer.
C'est vrai qu'effectivement, le truc de Wild, où c'est l'idée, on peut contrôler les animaux, machin, ça peut être marrant, mais il faut
Voilà.
voir vraiment comment ça se traduit en gameplay, effectif.
Et en scénario, et en richesse de jeu. Donc bon.
Mais c'est aussi pour ça, pour cette question d'un petit cocorico. Enfin, mais c'est même pas un cocorico, c'est finalement quelque chose de naturel. Ils en ont parlé à la fin de la conférence de ces deux jeux. Moi, j'ai voulu les mettre au début parce que bon, c'était sympa de voir que on ne parle pas forcément, même pour des titres relativement ambitieux, on ne parle pas que des Japonais ou des Américains. C'est vrai qu'on a beaucoup de studios de jeux vidéo ici, hein. Il n'y a pas que, il y a Arkane, et Ubisoft même est un studio français, enfin une société française, mais bon, là c'était, on avait l'impression, une vraie originalité française, quoi. On a eu aussi des infos sur des titres un petit peu plus connus, un petit peu plus attendus. On a vu un tout petit peu du multijoueur d'Uncharted 4, avec la possibilité qui a l'air beaucoup plus dynamique que le multijoueur des Uncharted précédents. A priori, je me serais pas intéressé au multijoueur d'Uncharted 4, c'est dur à dire, sauf que en fait, j'avais joué à Uncharted, je crois que c'était le 2 à l'époque, en multijoueur, et je m'étais pas mal amusé. Ça m'avait pas occupé pendant des mois, mais je m'étais fait franchement quelques soirées, on va dire pendant 2-3 semaines avec des amis sur le multi d'Uncharted 2. Il était vraiment vraiment sympa, étonnamment, parce qu'a priori Uncharted c'est vraiment le joueur, l'expérience solo qui prime. Et là en fait, je me suis dit bon, ça m'a fait lever un sourcil, comme je dis parfois, genre je suis intéressé. Et là ils ont ajouté énormément de capacités qui ont l'air de le rendre beaucoup plus dynamique. Comme il y a un filin qu'on peut lancer pour s'accrocher et se balader comme Tarzan, on
Un
a
grappin plutôt,
un
non?
grappin, voilà, merci. On a des sidekicks, des compagnons qu'on peut appeler, qui sont contrôlés par l'ordinateur et qui nous donnent des avantages, genre c'est une sorte de super pouvoir, enfin de capacité supplémentaire, où il y a quelqu'un qui va arriver et attraper un ennemi pour qu'on puisse venir le taper ou nous soigner ou ce genre de truc. Et il y a aussi ce qu'ils appellent des habilités mystiques, qui sont des sortes de super pouvoirs là, comme dans certains jeux qu'on voit aujourd'hui, comme Overwatch ou Destiny, où toutes les quelques minutes, je sais pas comment ça marche, on a un truc vraiment super puissant. Genre, il y avait Nathan Drake qui lançait une sorte de totem géant qui détruisait tout ce qu'il y avait sur son passage. Enfin, ça a l'air d'être assez sympa. Et en plus, il y a du dialogue qui semble contribuer à la communication, mais automatique. Genre, l'un des gros attraits pour moi de Uncharted, c'est l'écriture et les personnages et le jeu des acteurs. Et là, il y a beaucoup de ces de ce dialogue, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais qui est utilisé dans le multi pour communiquer des informations. Donc moi, je suis curieux. Je me dis que ça pourra peut-être être sympa. Bien sûr, Uncharted, ça reste un jeu qui est principalement solo, quoi.
Oui, toi, de toute façon, je sais que tu l'auras en day one, voire avant, si tu peux. Donc, je me fais pas de soucis là-dessus.
Oui, tu mais, sais que je suis un grand fan, ouais.
En fait, moi, la question que je me posais pour le multi, je trouve que c'est un mode bonus, en fait, dans Uncharted, parce que j'imagine que la plupart des gens vont quand même le prendre pour le mode solo. Et je suis curieux de voir, en fait, ce qui va s'en dégager, tu vois, parce que... La tendance, par exemple, c'est vraiment maintenant les shooters, ils deviennent plutôt orientés 100% multi, comme par exemple Battlefront, et sans passer par le mode histoire, campagne, aventure, enfin, quelle que soit la façon dont tu veux l'appeler. Et je me demande en fait si c'est pas un test pour Uncharted pour ensuite se renter un peu plus dans ces directions-là. En tout cas, le mode avait l'air sympa et vachement mieux que ce dont je me souvenais dans les précédents. Ça, c'est aucun doute là-dessus. Maintenant, je serais curieux de savoir si effectivement c'est une licence qui fait rêver comme le prochain Call of ou Battlefront pour le multi, ou si plutôt, enfin, ce que j'attends, c'est que la plupart des gens le prennent surtout pour son mode histoire qui est super sympa.
Ouais, ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a des gens qui jouent quand même en multi, sinon ils continueraient pas à le faire, je crois.
Ah bah oui, ça...
Ils l'avaient pour le 2. Je sais plus s'ils l'avaient pour le 1, mais pour le 2, pour le 3, ils l'avaient. Et là, pour le 4, ils le font aussi. Donc, je pense qu'il y a des gens qui jouent. Je pense pas que... Enfin, Naughty Dog, ils sont vraiment très orientés solo. Donc, je pense qu'il y aura toujours l'essentiel du jeu qui sera en solo. Mais bon, c'est à voir. C'est sûr que Uncharted, ça s'achète pas pour le multi, contrairement à un Call of ou ce genre de truc, quoi. Gravity Rush 2 a été, on a eu un petit peu plus de détails sur le jeu. Pour ceux qui se souviennent pas de ce qu'est Gravity Rush, reprenez notre épisode sur le Tokyo Game Show il y a quelques semaines. Il y aura la possibilité de jouer avec trois styles de gravité différents. Ils avaient montré le style lunaire et le style Jupiter. Donc évidemment, un est plus léger, l'autre est plus lourd. Ceux qui connaissent Gravity Rush sauront ce que ça veut dire pour le gameplay. Et il y a aussi le truc qui est plus intéressant. C'est on peut jouer avec un partenaire contrôlé par l'ordinateur en tag team. Moi, je me dis ça serait assez. Ça semble être le précurseur d'un mode coop sur Gravity Rush. C'est bizarre qu'il y ait que le partenaire qui ne puisse être contrôlé que par l'ordinateur.
Non, un mode coop en split screen, ce serait vraiment fantastique, je trouve. Hein. Ça ajouterait vraiment un plus. Et je pense que c'est ce qui manque en ce moment, c'est vraiment des modes coop sur un écran partagé.
Je suis pas sûr que là, ça serait en split screen, mais peut-être. On sait jamais.
Peut-être, mais bon.
Une date pour No Man's Sky, ça sera juin 2016, une date qui a beaucoup déçu beaucoup de gens. Ils espéraient qu'il arrive plus tôt, mais en même temps, on a eu l'année dernière tellement de problèmes avec les jeux qui sortaient trop tôt. Je crois qu'on aurait beau jeu de leur dire maintenant, vous sortez trop tard, quoi. Il faut mieux qu'ils prennent le temps de fignoler. Tu l'attends encore, No Man's Sky, ou c'est la hype est retombée et t'en as marre?
La hype est retombée, on en reparlera quand il sortira, tu vois. Peut-être qu'en mai 2016, je serai comme un fou à l'attendre. Pour l'instant, bon, enfin, il y a le temps, hein.
Ouais, je crois que t'es pas le seul dans le cas. C'est genre, bon, on attend quand même, mais maintenant on s'est calmé, on verra. La prochaine étape, c'est quand il sort, quoi. Gran Turismo Sport, une version de Gran Turismo pour PlayStation 4 qui se concentre sur les jeux de sport, enfin les voitures de sport, vraiment. Avec des championnats, deux championnats différents, des championnats nationaux où on pourra jouer pour notre pays et des championnats par constructeurs où on jouera en fonction des constructeurs, et il y aura même des championnats chaque année, une sorte de championnat réel où on aura des vrais prix et on pourra entrer en compétition de cette manière. Bon, les fans de jeux de voiture, je sais qu'ils sont moins nombreux qu'avant. Il y a des gens qui m'ont engueulé quand j'ai parlé de Need for Speed
Need
dans
for
ces
speed.
Termes. Mais bon, malheureusement, c'est vrai que c'est plus trop, c'est un petit peu plus un jeu de niche qu'avant. On l'a comparé aux jeux de combat, par exemple. Et les gens me disaient, ouais, mais regarde, toi, les jeux de combat, tu les regardes alors que c'est un truc de niche. C'est vrai que c'est un truc de niche, mais moins, je pense, que les jeux de course. Il y a eu une période, il y a quelques années, où les jeux de course étaient beaucoup plus populaires et où les jeux de combat sont retombés un petit peu en popularité. C'est un petit peu l'inverse. Les jeux de combat sont un petit peu en train de revenir sur le devant de la scène, mais bon, ça inclut aussi mes préférences, c'est sûr. Une chose intéressante sur Gran Turismo Sport, c'est qu'il inclura une composante réalité virtuelle avec le PlayStation VR. Et on a eu une longue démo sur Dreams, ce jeu de Media Molecule, où on est censé pouvoir créer des univers et créer des jeux avec des outils de manipulation d'objets et de création de niveaux incroyables. J'étais assez sceptique pendant l'E3. Là, c'est vrai que c'est joli ce qu'ils réussissent à faire, mais je suis encore un petit peu sceptique, je dirais. Est-ce que toi, t'as été plus séduit par ces univers oniriques ?
Bah, tu vois, il y a 2 minutes quand on parlait de Wild de Michel Ancel, hein, je te parlais des jeux qui avaient un concept sympa, mais enfin en général, ça se traduit difficilement ensuite dans un jeu qui soit intéressant de longue haleine. Je pense que Dreams en est l'exemple parfait, donc. Je me trompe sans doute, hein. Mais pour l'instant, ok, c'est intéressant, c'est sympa, mais j'ai du mal à me dire, waouh, ce jeu-là, je l'attends, c'est incroyable, il faut absolument que je m'y mette.
Ouais, c'est un petit peu ce que je crains aussi
C'est un
pour ce
concept.
jeu-là. Ouais, c'est en fait moi j'ai pas hyper accroché à Little Big Planet qui était l'ancienne la production précédente de Media Molecule et j'ai pas non plus accroché à Tearaway qui là encore est plein de rêves et de fraîcheur
Ouais.
et de beauté, mais bon, ensuite, au niveau du jeu, malheureusement, il faut que le jeu soit, pour moi en tout cas, il faut que le jeu soit prenant pour que je m'y plonge. Et du coup, comme j'étais pas hyper fan de Little Big Planet ni de Tearaway, je me dis bon, Dreams, j'y prête peut-être un petit peu moins d'attention que les gens qui eux seraient fans des productions de Media Molecule, quoi.
Oui, voilà, on n'est peut-être pas forcément dans le cœur de cible maintenant. Je pense que ça doit faire appel à la créativité innée qui est ou pas en chacun d'entre nous. Moi, j'en ai
Et
aucune,
nous, ouais.
donc voilà. Donc pour moi, Dreams, je pense que ça doit être sympa de regarder quelqu'un jouer ou créer son monde, mais moi, je pense pas que ça m'amuse beaucoup.
Ceci dit, c'est assez intéressant de voir que Sony continue à soutenir des sociétés, des studios et des jeux comme ceux-là, alors que, je me trompe peut-être, mais je pense pas qu'ils fassent énormément d'argent. Et pourtant, c'est un studio qu'ils soutiennent énormément, qu'ils continuent à développer. Je sais que Tearaway, par exemple, a vraiment pas fait d'argent. Tearaway Unfolded, je pense pas qu'il ait fait beaucoup d'argent non plus. Donc, c'est vraiment une volonté presque de branding de Sony, je pense, qui peut dire voilà, on a des jeux comme ça qui sont disponibles sur la console. Ça peut même s'appliquer. Parfois, c'est des succès comme Journey, qui a été un succès interplanétaire sur la PlayStation 3 et ce genre de trucs. Mais parfois, il faut juste mettre de l'argent dans des trucs qui marchent pas forcément aussi bien pour différentes raisons, quoi.
Je pense que c'est un bon moyen aussi de se différencier face à la concurrence, parce que finalement Battlefront il sera sur enfin sur pas mal de supports, pareil pour le Call of, donc tu vois, ça permet aussi d'apporter quelque chose d'un peu frais, différent, sans avoir besoin d'avoir des très très grosses licences.
Ouais, c'est ce que je pensais avec du branding, ça donne une image différente à la marque PlayStation, quoi. Il y aura une bêta en 2016 pour ça, et j'ai oublié de le dire, mais Gran Turismo Sport aura une bêta début 2016. On a eu des nouvelles sur Street Fighter V, d'ailleurs. C'était marrant, il y avait eu des leaks toute la journée sur les annonces qu'il allait y avoir lieu. Et Yoshinori Ono, donc le producteur de Street Fighter, est arrivé et il a dit en japonais très gentiment « Bon, alors on va faire un truc, hein. On va faire semblant que vous avez complètement oublié tous les leaks que vous avez vus aujourd'hui et vous allez être super surpris du fait que j'annonce le personnage d'Alcim. » Wouhou ! Super, c'était marrant. Il a aussi annoncé qu'il y aurait, c'est le 15e sur 16 personnages de base, il a aussi annoncé qu'il y aurait 6 personnages qui seraient supplémentaires, qui seraient disponibles au cours de la première année de jeu. Et ces personnages seront disponibles, on pourra les acheter soit avec de l'argent réel, soit avec du fight money, ce qu'on savait déjà, mais il a confirmé qu'il y aurait des épreuves quotidiennes où on pourra gagner ce fight money et aussi on pourra en gagner en montant de niveau plusieurs personnages. Il faudra pas se concentrer sur un seul personnage, sur notre personnage préféré, pour avoir cet argent, pour avoir les personnages supplémentaires. Donc c'est un moyen d'amener un petit peu de variété dans le jeu. Et bien sûr, le truc hyper important, c'est la date de sortie qui est le 16 février, que les fans attendront donc avec grande impatience, et vous savez que j'en fais partie. Tu joues encore à Street Fighter, toi, ou plus du tout? Il y a une époque où on se retrouvait
pour ça. J'ai plus vraiment de partenaire, mais je l'ai sur Steam et je l'ai sur PS4 aussi.
Ah, mais alors, il faut qu'on joue ensemble pour que
ouais,
je t'écrase.
Mais je pense que tu ne devras plus me parler après que je t'ai dérouillé comme dans le bon vieux temps.
C'est vrai que l'une des activités favorites pendant Street Fighter, c'était le trash talk où on s'insultait copieusement et on expliquait pourquoi on était bien meilleur que l'autre. C'est bien lointain tout ça. Ils ont aussi présenté sous forme de 16e personnage comme info exclusive de Street Fighter, Katsuhiro Harada, qui est le producteur de Tekken 7. C'était marrant, il y avait une photo sur l'écran de sélection de Harada. Enfin, c'est le producteur de Tekken de chez Bandai Namco. Et donc, il est arrivé sur scène, ils sont chamaillés un petit peu, c'était très mignon. Et Harada a donc enfin annoncé l'arrivée de Tekken 7 sur PlayStation 4, sans donner de date ni rien, mais bon, c'était une évidence que ça allait arriver. Il arrivera aussi sur Xbox One, contrairement à Street Fighter 5 qui est une exclusivité PS4. Mais donc, Tekken 7 arrivera à un moment, et il aura une composante VR. Ce qui là aussi est un petit peu surprenant, enfin je dis là aussi, mais en fait là seulement c'est un petit peu surprenant. Composante VR sur Tekken 7, je sais pas très bien ce qu'ils vont pouvoir faire, mais à explorer, pourquoi pas. L'équipe de Harada développe depuis un moment la sorte de mini démo Summer Lesson, qui est un petit peu tendancieuse, qui est une expérience de réalité virtuelle sur PlayStation 4. Bon, donc ils travaillent dessus, quoi.
Écoute, à voir. Je serais curieux de voir ce qu'ils vont faire, qui tire parti de la réalité virtuelle sur Tekken 7. Hein. Vraiment, j'ai du mal à imaginer ce qu'ils vont sortir, mais en tout cas, on va voir. Ça peut être sympa.
Je dirais que Tekken 7, je pense pas que ça soit juste le mode de jeu normal et qu'ils te mettent ça dans un casque de réalité virtuelle.
Sinon, c'est l'atrocité absolue.
C'est ça. Mais ils ont souvent, dans les jeux Tekken, je sais pas si tu te souviens, il y avait plein de petits jeux Tekken en plus dans les versions consoles, genre Tekken Ball,
Tekken Bowling. Était très sympa, ouais.
Il y avait plein de petits jeux, de mini-jeux. Je pense que ça sera peut-être un truc comme ça, un mini-jeu Tekken qui aura pas énormément à voir avec le jeu de base, quoi. Ils ont ensuite passé un bon moment sur la PlayStation VR. Malheureusement, ils n'ont annoncé ni prix ni date. Donc ça arrivera peut-être au PlayStation Experience qui a lieu en décembre à Las Vegas, comme l'année dernière. Mais par contre, ils ont montré différents jeux. Ils ont montré Rigs, qui est un jeu, en fait, une sorte de jeu de sport futuriste où on est dans des exosquelettes ou dans des armures, dans des mechs. C'est vraiment sport, genre sport à l'américaine, NFL, NBA, je sais pas quoi, avec un commentateur qui crie. Il y avait Until Dawn, vous savez, ce jeu d'horreur qui est une version VR qui s'appelle Until Dawn Rush of Blood, qui est une sorte de rail shooter en fait en réalité virtuelle. Robinson, un jeu de Crytek où on est dans un univers plein de dinosaures, c'est vraiment à la mode les dinosaures en ce moment, qui était pas mal foutu aussi, et une expérience intéressante qui s'appelle The Walk, qui est une expérience de Sony Pictures Entertainment, en fait, où ils vous mettent, là, je sais pas si c'est filmé exactement ou rendu en 3D, mais j'ai l'impression que c'est filmé, et en fait, c'était, comment s'appellent les gens qui marchent sur des cordes ?
Les funambules.
Les funambules, merci beaucoup, voilà, c'est dur les mots. Donc, un funambule qui marche entre des immeubles à New York, genre à 150 mètres de hauteur, quoi. Et donc, ils vous mettent là-dedans dans le PlayStation VR, c'était ça aussi, c'était genre un peu oula, impressionnant. Est-ce qu'il y a des jeux, ceux-là ou d'autres, qui ont retenu ton attention en PSVR ? Après, je vous donnerai mes impressions sur l'appareil lui-même.
Moi, Rigs, ça me parle pas du tout. C'est trop, ouais, comme tu l'as dit, c'est trop américanisé pour moi. C'est vraiment un sport type NFL ou bon, bref. Moi, c'est pas trop mon truc. Until Dawn, j'avais beaucoup aimé le jeu en fait. Donc le voir en rail shooter.
Moi, j'y ai pas joué, j'avais peur.
Franchement, il est. Ça m'a fait penser en fait au jeu Quantic Dreams, hein, parce que c'est exactement la même chose. C'est plus un scénario, une ambiance, des choix et des personnages et une écriture plus que des scènes d'action totalement incroyables. Donc voilà, c'est plutôt comme ça. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et donc franchement le refaire ou faire la variante en VR, ça me tente bien. Robinson, faut voir, c'était joli. Maintenant bon, je commence à en avoir assez des dinosaures.
Hein. Ils sont même pas encore sortis. Il y avait Horizon Zero Dawn qui était montré en cible, une vidéo presque similaire à la Celle qu'on avait vue à l'E3, mais c'est vrai, je sais plus, il y avait aussi, je sais plus, il y a eu genre 3 ou 4 jeux différents avec des dinosaures. Mais toi, t'adores les dinosaures, t'as
pas j'aime les dinosaures, mais c'est un peu le même principe que pour les zombies. Les zombies, c'est bien, ouais. Mais il y en a eu trop, il y en a eu beaucoup trop, en fait. Donc là, les dinosaures, faut se calmer un peu. Et ensuite, en VR, je pense que ça peut être vraiment sympa, ça dépend vraiment du niveau d'immersion que tu peux avoir. Et The Walk, j'ai le vertige, donc je ne pense pas que ce soit trop le jeu pour moi.
Ouais.
Enfin, voilà.
Ouais, donc c'est pas trop ton truc, toi, la réalité virtuelle, en fait.
Bah, pour l'instant, tu vois, je pense que le jeu de sport de méca peut être sympa. Enfin, en tout cas, c'est un concept intéressant. Je pense que c'est vraiment ce qui s'adapte peut-être le plus à la VR et qui peut apporter quelque chose de plus. Le reste, c'est quand même un peu finalement des
Artificiel,
cinématiques de
ouais.
jeu qui, voilà, c'est plutôt plus des graphismes en fait qu'un concept original ou quelque chose de vraiment différent de ce qui peut exister déjà.
Ouais. Alors moi, ceux qui m'ont séduit, c'est The Walk, juste pour essayer. Mais ça, c'est le genre de truc, tu le fais 5 minutes
Enfin,
et
une
puis c'est
fois,
fini,
oui,
ou
c'est
10
ça,
minutes et puis c'est terminé. Riggs, pourquoi pas? Franchement, j'ai trouvé que ça avait l'air assez dynamique, assez marrant. Et encore une fois, comme on le dit souvent, le fait d'être dans un véhicule, que ça soit un robot géant ou une voiture ou quelque chose de ce genre, ça correspond très bien à la mécanique d'un casque de réalité virtuelle, parce qu'on peut bouger la tête indépendamment du mouvement du corps. Donc ça marche pas mal. À côté de ça, j'ai donc eu l'occasion d'essayer l'appareil lui-même, le PlayStation VR, enfin. Et j'avais un petit peu peur, parce que quand j'avais essayé, certains s'en souviendront, l'Oculus Rift, le premier development kit, moi j'avais pas vu la 3D, c'était un problème de, je sais pas, de réglage ou de quelque chose, et j'avais l'impression d'avoir une télé juste devant les yeux, et ça marchait pas super super bien. Et là, en fait, ça a pas mal marché du tout. C'était franchement très fonctionnel, et donc je pense que je peux voir la réalité virtuelle, donc c'est cool.
Ouf, tu ne fais pas partie de ces gens-là qui n'ont
C'est
aucune
ça.
chance de la voir.
Mais c'est ça,
Bravo.
il y a genre, je sais pas, 5 ou 10% de la population chez qui ça marche pas. Donc moi, je crois que c'est pas parfait, mais ça marche correctement. Je crois que j'ai un petit problème de perception de profondeur, mais pas complet. Donc je vois quand
Tu
même.
devrais retenir cette excuse-là pour les parties de Street Fighter.
Pas mal, pas mal. Mais donc, je l'ai mis sur la tête. L'appareil en lui-même tient bien. Il était un petit poil lourd, mais pas trop. Le système de fixation un peu bizarre fonctionne pas mal, parce que le poids est bien réparti sur 2 ou 3 points d'appui. Il y a le casque qui se met par-dessus. Il y a un fil, un câble. J'ai fait un ou deux périscopes pendant la Paris Games Week, et il y avait plein de gens qui me posaient des questions, donc j'ai les bonnes réponse à vous donner. Il y avait effectivement un câble, donc c'est pas du sans fil. Et le plus important, c'est que d'une part, les graphismes ne sont franchement pas super. Ça, il n'y a pas de surprise. La PlayStation étant ce qu'elle est, c'est une console qui a maintenant 2 ans et qui était déjà un PC pas super puissant à l'époque. Et ben forcément, quand on doit dédoubler les images pour en faire pour l'œil droit et l'œil gauche, et ben les graphismes souffrent un peu. Donc c'est des graphismes qui sont pas d'une qualité des graphismes qu'on peut voir sur PlayStation 4. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on peut voir les pixels. Donc la résolution est pas suffisamment bonne pour qu'on ne voit aucun pixel. Donc là aussi, les gens vont commencer à se dire, ah mais merde, du coup c'est pas génial, graphisme pourri, on voit les pixels, qu'est-ce qui reste? Et ben en fait, le truc le plus important, et de très très loin, c'est la latence. Et là, c'est parfait, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que quand je bouge la tête, l'image bouge pour correspondre à ce que je devrais voir au millième de poil de cul près. C'est incroyable, ça doit être, enfin je sais pas à combien est la latence acceptable, mais on est largement en dessous. Je vois pas le décalage de l'image, et ça, j'étais pas convaincu qu'ils y arrivent, et pour le coup, ça provoque une immersion qui est telle qu'on oublie en fait les problèmes comme les pixels et la qualité des graphismes et ce genre de choses. C'est juste que j'ai enfin eu cette expérience dont beaucoup de gens parlaient quand ils avaient déjà essayé ce type d'appareil avant, qui est, on a l'impression d'être ailleurs. Et là, je l'ai enfin vécu, effectivement. Alors, on peut se détacher, c'est pas forcément non plus, oh mon Dieu, c'est incroyable! Tu vois, c'est pas forcément ça. C'est juste que t'es quand même, ah ouais, d'accord. Donc Là, c'est une perception d'un environnement vidéo ou vidéoludique qu'on n'a jamais eu autrement. Donc, je suis très encore plus intrigué que je l'étais avant parce que j'ai constaté finalement par moi-même que ça fonctionne, comme beaucoup de gens le disaient. Maintenant, le jeu auquel j'ai joué, par exemple, c'était un jeu tout pourri où il fallait mettre des coups de tête dans un ballon pour l'amener dans un but. Et au bout d'un moment, tu vois, il y a le ballon qui arrive, ça se joue qu'avec la tête. Donc, t'as le ballon qui arrive, tu mets un coup de tête, t'essayes d'aller dans le but, il y a plein de variantes. Mais bon, au bout d'un moment, ça fait mal à la tête, etc., etc. Je pense que d'autres jeux seront plus sympas. À mon avis aussi, au début en tout cas, une demi-heure, une heure, ça sera un peu fatigant. Mais on se souvient des premiers jeux 3D, pour les gens qui sont suffisamment vieux pour ça. Moi, au bout de 15 minutes de jeu en 3D de FPS à l'époque, j'avais mal à la tête, j'avais envie de vomir et je m'arrêtais. Donc, on s'habitue à tout. Donc, on verra. Mais très bonne, franchement, impression très positive maintenant que j'ai pu l'essayer. Je m'y attendais pas. Donc...
Bah, à suivre, hein. Moi, j'attends, je dois t'avouer que j'attends un peu plus les solutions Oculus et HTC pour voir un peu ce que ça donne avec des, disons, des configs un peu plus performantes. Hein. Mais sinon, moi, en fait, la seule chose qui m'inquiète un peu, en fait, en VR, c'est déjà, effectivement, les sessions de jeu de longue durée. Parce que je pense que ce sera pas forcément toujours très agréable ou fatigant, puisque c'est quand même des machines qui pèsent leur poids et qui sont assez encombrantes. Et en plus, c'est vraiment pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grands jeux qui révolutionnent un peu le genre, qui soient annoncés comme étant VR, la solution de VR qui va te, enfin, le jeu sur VR qui va te faire acheter le casque. Ouais.
Qui révolutionne le genre, il y a pas de genre encore, les trucs ne sont pas sortis. Donc. Mais c'est vrai qu'il y a pas le truc où tu te dis
ah bah celui-là c'est ce qu'il faut, tu vois, un peu comme je sais pas, il y a 15 ans ou 20 ans quand Toshinden est sorti sur PS1, c'était oh, disons qu'il me faut ça tout de suite.
C'est vrai. Mais même ça, c'était encore plus accessible parce que c'était une évolution d'un concept existant, donc
Bien sûr. Ouais.
Mais c'est pas faux, hein, ça se trouve, là encore, il faut rester prudent, on va se rendre compte au bout d'un an que, en fait, c'est un beau gadget, ça peut servir pour certains trucs, mais au final, c'est pas très utile, hein, on sait pas, personne ne sait.
Moi, au bout d'un an, j'attendrai plutôt la version 2 de tous ces casques, ouais. Qui pèsent 100 grammes de moins, déjà.
Mais oui, c'est sûr que ça va évoluer vite, ne serait-ce que pour des histoires de résolution. À mon avis, très vite, il y aura des modèles où on verra plus, on aura une sorte de retina display pour les yeux, pour une distance de 2 cm. Donc ça va évoluer, c'est certain. Mais par contre, par rapport à ce que tu dis pour l'Oculus et le Valve VR ou le HTC Vive, moi je pense qu'il y a un avantage au PlayStation VR qui est une question de prix et de simplicité. Manière que le jeu vidéo a été démocratisé par les consoles parce que c'est simple, tu branches sur ta télé et t'as ta manette et voilà, je pense que pour, même si ça sera objectivement plus puissant, il y aura plus de trucs qu'on pourra faire, sur un de ces appareils qui se branche sur PC, je crains que ça ne soit un petit peu trop, déjà un peu plus cher, parce que l'appareil risque de coûter un peu plus cher parce qu'il est mieux, mais surtout la machine pour le faire tourner coûte plus cher. Alors oui, ça donnera des meilleures images, mais il n'empêche, et puis c'est un petit peu plus compliqué, il faut avoir telle et telle config, et il faut avoir, enfin, alors que le PlayStation VR, maintenant, je pense qu'il est suffisamment bien pour donner cette expérience. On n'est pas sur des trucs comme Google Cardboard ou ce genre de trucs qui sont vraiment le bas de l'expérience. On a des trucs vraiment, une vraie expérience VR. Mais par contre, il suffit de le brancher sur la PlayStation. Ça coûtera, on imagine, sans doute, un petit peu moins cher ou le prix d'une machine qui se branche sur un PC. Sauf que la machine sur laquelle on branche est moins chère. Il s'en est déjà beaucoup, beaucoup vendu des PlayStation 4. C'est la console de cette génération la plus vendue de loin. Moi, je pense qu'ils ont une vraie, vraie carte à jouer avec, cet appareil. Et en plus, ça leur donne un avantage, un autre avantage sur les concurrents, que ça soit la Xbox One ou la future Nintendo NX si elle arrive. Enfin, on ne sait pas exactement ce qu'elle sera, mais a priori, il n'y aura pas de composante réalité virtuelle. Parce que, justement, même si on doit faire un choix aujourd'hui, on se dit, est-ce que je dois choisir cette console ou cette console ? si la réalité virtuelle m'intéresse, a priori, je vais peut-être me diriger vers la PlayStation parce que c'est les seuls qui ont une stratégie annoncée. Alors que la Xbox One, on a des trucs beaucoup plus confus sur HoloLens, mais pas de et HoloLens, c'est pas de la réalité virtuelle, ouais. C'est dans on sait pas combien de temps.
Et là, c'est pas pour demain.
C'est oui, alors que la PlayStation VR, on sait que c'est allez première moitié 2016. Donc
ah bah de toute façon, je pense que pour l'instant, les deux concurrents sérieux, c'est vraiment PC et console, ça c'est sûr.
Non, bien sûr, mais moi ce que je dis, c'est que pour le grand public, je pense que là, la PlayStation a même un avantage sur
Je pense. Bah le prix et la simplicité d'utilisation, je pense que le PC déjà va dire au client lambda que pour son casque il faut quand même au minimum une GTX 970. Il va te faire hein, c'est quoi ça?
Ouais. Ouais, c'est ça. Et en plus, il y en a pas beaucoup qui auront des cartes graphiques aussi puissantes.
Bah,
quoi.
Oui, oui, bien sûr. Il faut un PC récent, puissant. Ouais.
Pour
faut,
les membres
faut
de, la PC Master Race comme nous, ouais. C'est une rigolade.
C'est aucun problème. Mais, d'un autre côté, j'ai un peu peur au niveau de la simplicité d'utilisation et du paramétrage en fait, hein, parce que c'est toujours un peu ce qui est, à mon avis, un peu compliqué sur PC vu l'éventail de config, la variété des jeux, des types d'utilisation. Alors que finalement, sur PlayStation, évidemment, tu branches. Et puis c'est bon, t'es tranquille.
Ouais, ça c'est sûr sur PlayStation. Sur PC, je pense que ça sera relativement simple parce que Oculus a l'air vraiment de se pencher sur la chose et d'avoir une sorte de marketplace. Ouais, peut-être. Bon, enfin, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai été assez séduit par la PlayStation VR. J'ai aussi pu essayer The Division. C'était marrant, je suis tombé sur un auditeur. Je marchais, j'en ai vu quelques-uns, mais je marchais donc dans la Paris Games Week, dans le hall, et il y a quelqu'un qui m'arrête, il me dit « Ah, salut Patrick Béja, bonjour, je suis un auditeur. » C'est d'ailleurs un ancien podcasteur lui-même du Brocast. Et il me dit « Ah, bah d'ailleurs, je travaille chez Ubisoft, si t'as du temps. » Parce que j'ai généralement, je l'ai déjà mentionné, mais j'ai généralement très peu de relations avec les sociétés, avec les départements relations presse machin et là il me dit ah bah si tu veux essayer des trucs, je dis bah écoute je suis intrigué par The Division, si tu peux me faire rentrer, il y a la queue mais voilà, il me dit oh pas de problème viens machin, donc j'ai fait un petit peu le kéké, le podcasteur qui avait la chance de connaître quelqu'un. Non, bien sûr, j'ai rien fait de spécial. Mais bref, je suis rentré et j'ai pu essayer The Division. C'était un jeu qui avait fait forte impression à l'E3 il y a un an et demi. Et je dirais que il est assez intriguant. Je réserve encore mon jugement. En fait, c'était la démo de l'E3 cette année. Donc, une Dark Zone, une zone en multijoueur compétitif. Et il était... alors, d'une part, il était graphiquement joli, mais beaucoup moins beau que la première vidéo qu'on a vue. Et ça, je pense que c'est une impression générale. C'est beau, mais c'est au niveau des jeux PlayStation qu'on voit aujourd'hui. C'est pas un truc où on se dit « Waouh, mon Dieu !» D'ailleurs, il tournait sur Xbox, si je ne m'abuse. C'est pas un truc où on se dit « Waouh, mon Dieu, c'est incroyable !» C'est mind-blowing, quoi. Par contre, l'idée qu'on aille comme ça dans ces zones multijoueurs, ça peut être intriguant. Le truc, c'est que il y avait vraiment, il disait pendant la présentation, bon, tout le monde se tue tout le temps dans nos démos, essayez de ne pas vous tuer, vous allez voir, c'est possible de coopérer aussi, machin. Sauf que quand tu joues comme ça pendant 20 minutes, t'as rien à faire de ton personnage, t'as rien à faire de rien, donc tu vois quelqu'un, tu tires, et moi le premier. Donc, c'était un petit peu le foutoir, tout le monde se tuait tout le temps. C'est un jeu assez stratégique, il faut se planquer, c'est vraiment, on est en cover un petit peu tout le temps. Pourquoi pas ? C'est les mécaniques ont l'air tout à fait saines. C'est pas du tout de gameplay hyper Twitch où il faut avoir la super rapidité pour tirer sur les gens avant qu'ils nous tirent dessus. On a beaucoup plus de stratégie. Et moi, mon expérience avec Destiny en coop multijoueur me donne vraiment envie d'autres expériences coop multijoueur en tir à la première personne ou en tir à la troisième personne, où on est du gameplay en équipe. Et là, c'est des équipes de 3, et je pense que ça peut fonctionner. Donc, je suis très curieux de voir ce que ça donne une fois que le jeu sera sorti. C'est censé être en 2016. Donc, on verra. Et enfin, Sony, il faut pas oublier que Sony, comme je le disais, aura la PlayStation Experience à Las Vegas en décembre, et il y aura King of Fighters 14 disponible. Et alors, vu comment il était moche à l'E3...
Ouais. De toute façon, j'ai vu vraiment peu d'évolution en termes Enfin, je suis pas un expert, hein, mais un peu d'évolution en termes de gameplay et de changement d'une version à l'autre depuis un bon moment. Bon, ça va être sympa un petit moment, je pense, mais ça va être sympa à jouer.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mais en contrepartie, enfin, ça me rend pas fou d'attente.
Mais t'es malade! Il y a Kyo et il y a Yori! C'est quoi? C'est
Oh.
Izanagi? Yori? Mais
Yagami,
le Yagami,
Yori
ah oui,
Yagami, tu ne
Yori
savais même
Yagami,
pas
mon
ça, c'est
Dieu!
Kyo
Ah là là!
Kusanagi.
Kyo Kusanagi et Yori Yagami. Et il te prend comme ça, il t'attrape, il te fait Nake, Sakebe, Shine! Non, bon, ok. Les anciens de King of Fighters se souviendront de quoi il s'agit. Mais oui, il avait l'air tellement moche ce King of Fighters en 3D là qu'on avait vu pendant 30 secondes. Bref, peu importe. Parlons plutôt de la Nintendo NX. Alors toi, tu es non seulement un grand fan de Nintendo, mais tu avais même travaillé pour la société. J'avais presque oublié.
Eh
Que
oui.
tu avais travaillé pour Nintendo pendant quelques temps. En fait, on a eu un rapport du Wall Street Journal qui nous annonce que ils ont, eux, des sources qui sembleraient indiquer que la console est effectivement, comme on en entendait parler des rumeurs depuis longtemps, une composante console maison et une composante console portable qui puisse utiliser de concert et qui donc soit vendue ensemble, des capacités techniques et graphiques de première catégorie, contrairement à ce qui s'était passé avec la Wii et la Wii U, donc vraiment concurrencer au niveau graphisme les consoles actuelles, peut-être même aller un petit peu plus loin puisqu'elle risquerait de sortir, enfin puisqu'elle sort après. On l'a suffisamment répété, mais dû à l'échec de la Wii U qui malheureusement ne se vend pas assez malgré certains excellents jeux. Et ils ont lancé le programme de développement pour les développeurs tiers. Bref, il y a plein d'indices qui laissent penser qu'on est prêt pour non seulement une annonce en 2016, mais aussi une sortie possiblement en fin d'année 2016. Moi, mon pronostic, c'est fin 2016 parce qu'il faut absolument tourner la page de la Wii U qui s'est pas assez vendue pour intéresser les développeurs et donc c'est un cercle vicieux. Donc il faut absolument tourner la page vite. Ils ont de quoi tenir. Ça se passe pas trop mal pour eux en ce moment, mais sur le long terme ou le moyen terme, c'est compliqué. Donc moi, je dirais présentation E3, sortie fin d'année au plus tard mars 2017 pour le trimestre fiscal, enfin l'année fiscale 2016. Dani, qu'en penses-tu?
Écoute, on verra. J'en sais trop rien. Je me dis que si elle avait dû sortir en 2016, même fin 2016, ils auraient peut-être déjà commencé à laisser filtrer quelques informations pour commencer à créer du buzz. Peut-être que je me trompe.
Bon,
Maintenant,
t'as
ça dépend
quelques infos
vraiment
quand
de la
même.
stratégie et l'état d'avancement du produit aussi, parce que si ça se trouve, ils sont encore loin de l'avoir finalisé. Donc, j'en sais rien.
Oui.
J'espère juste que le concept en lui-même me fait peur un peu parce que j'ai peur que ce soit une console moyenne et une console portable moyenne et que ce soit juste un peu enfin comme la tablette de la Wii U, tu vois, elle sert à rien, hein.
Non, là, elle sert à rien. Mais par contre, s'ils réussissent à remplacer la 3DS et la Wii U par deux consoles équivalentes en utilisation, mais qui soient plus performantes que ça, en reprenant un leadership sur les jeux et en sortant des jeux de qualité, moi j'ai vraiment envie d'y croire à cette NX. Soit tu m'as l'air un petit peu
Ouais,
plus
je suis
circonspect.
plus dubitatif. Le truc, c'est que en général, sur les consoles de salon Nintendo, depuis un moment, hein, les jeux qui se vendent, c'est les first party. Mais que finalement, les jeux Nintendo sont tellement bien qu'ils ont un peu écrasé tout le reste et qu'il y a vraiment peu de jeux d'autres éditeurs sur Nintendo. Et je pense que ça va être le gros problème de leur prochaine console de salon, c'est comment arriver à franchir cette étape-là et à redonner confiance aux third party.
Bah, à mon avis, alors, je pense qu'il y a une stratégie qui pourrait fonctionner. C'est que Beaucoup de gens disent, ah oui, mais les jeux portables, aujourd'hui, voilà, tout le monde joue sur téléphone portable, donc il n'y a plus de place pour une console portable. Et je pense que les gens se trompent lourdement. Je pense qu'il y a largement la place pour une console portable dédiée. Je pense que les vrais joueurs jouent sur leur téléphone peut-être un petit peu, mais les vrais joueurs sont prêts à acheter une console portable en plus, ne serait-ce que pour une raison toute bête, mais parce que les contrôles ne sont pas bons sur un téléphone. T'as un touch, c'est un écran tactile et ça va pas si tu veux faire du jeu sérieux. Là, pour la plupart des jeux, ça convient pas. Donc, ils veulent une vraie console portable. Il y a peut-être pas la place pour deux consoles portables, mais je pense qu'il y a la place pour une. Sony pousse mollement la PlayStation Vita qui de toute façon s'est vendue qu'à 4 millions d'exemplaires. Ne dis pas de mal de ma PlayStation Vita, je l'aime beaucoup. Mais bon, effectivement, elle s'est pas bien vendue, ils y croient plus trop, ils ont annoncé, ils développent même plus pour la PlayStation Vita eux-mêmes, il y a que des développeurs tiers qui le font. La 3DS fonctionne très très bien, pas aussi bien que la DS à l'époque, mais elle fonctionne pas mal. Mais elle est clairement en train de ralentir, mais par contre, il y a énormément de joueurs. Tu te moques de ma PlayStation Vita, Dani, mais j'imagine que tu as une 3DS.
Bien sûr, oui, je m'en sers tout à fait régulièrement. Mais de toute façon, voilà. De toute façon, mon commentaire était vraiment plutôt orienté console de salon plus que console portable. Hein. Je pense qu'il y a encore de la place pour une console portable et pour les raisons que je viens de mentionner, finalement, un téléphone portable et des contrôles purement tactiles, c'est pas forcément idéal pour jouer à un bon nombre de jeux. Donc très
mais
sympa pour jouer à un...
Ouais. Mais justement, c'est ça la stratégie, c'est qu'il y a la place pour une console portable. Et du coup, s'ils font en sorte que cette console portable fonctionne en duo avec la console de salon qu'ils vendent, et ils ont d'excellents jeux parce qu'ils ont toujours d'excellents jeux, et imaginez une console portable Nintendo qui ait un superbe écran et une puissance correcte, contrairement à cette ignoble 3DS qui a une puissance d'une génération antique, on peut être intéressé par cette combo. Du coup, les gens achètent pour la console portable et pour la console de salon qui vient avec, ça monte le nombre de consoles vendues et du coup les développeurs tiers sont intéressés parce qu'il y a un marché qui existe.
Ouais, mais bon, faut voir qu'une console portable de bon niveau, c'est 150-200 €. Enfin, à quel prix est-ce qu'ils vont vendre le pack, tu vois? C'est bon. Écoute, de toute façon, c'est vachement théorique pour l'instant. Mais je pense que s'ils veulent être compétitifs face à PS4 et Xbox One, ils vont devoir faire ça entre 300 et peut-être 499 €. Ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre.
Moi, je crois qu'ils peuvent le faire autour de 300-350 € avec les deux. Mais bon, je sais pas. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Le problème, c'est que si ça sort dans un an, il y aura encore plus de PlayStation 4 et Xbox One vendus. S'ils ont une puissance un petit peu plus grande, les gens vont se dire « Ah, c'est cette génération .5 ». Donc, mais en même temps, ça coûtera plus cher. Ah, je sais pas. Je sais pas, mais je veux y croire, Daddy, je veux.
Oui, bon, écoute, en tout cas, Mario, il sera toujours sympa à jouer, je pense, sur quelques consoles que ce soit. Donc...
Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une console Nintendo NX qui va sortir, oui. Soit en 2016, soit 2017, ça c'est certain. Et donc il y aura Mario, peut-être Zelda qui va faire un dual sortie Wii U NX, comme on en parle depuis un moment. Il y aura des Mario, donc ça va encore arriver. Et j'espère qu'ils vont pas se planter, parce que s'ils se plantent, là, on pourra se poser la question de l'avenir de Nintendo dans le hardware. Mais pour le moment, la prochaine console existera, elle sera là, on peut se réjouir. Overwatch est donc disponible en version bêta depuis hier au moment de l'enregistrement. J'ai fait quelques parties en streaming. Comme je le disais, j'ai eu la chance d'avoir accès à la bêta. Faisons un petit résumé rapide. Toi, tu n'y as pas accès, Dani, j'imagine?
Non, j'ai encore vérifié ce matin, mais pas accès, malheureusement.
Bon, donc je vais faire mon petit laïus. Peut-être que tu peux me poser des questions si tu en as.
Non, je te boude et je te déteste. Au revoir.
comme beaucoup de gens en ce moment. Donc, une chose importante, il n'y a pas de clé bêta. Le seul moyen d'arriver dans la bêta, c'est d'avoir son compte flagué pour l'accès à la bêta. Donc, si vous voyez des sites ou des gens qui vous proposent des clés pour la bêta, ça n'est pas vrai, c'est des gens qui essayent de vous arnaquer, donc faites attention. Ils sont en train d'inviter évidemment des personnalités publiques et beaucoup de gens qui s'étaient inscrits aussi. Mais pour le moment, les accès sont relativement limités. Il y aura des week-ends de stress test où ils vont inviter beaucoup plus de gens pour le week-end. Donc, même si vous n'avez pas eu une invitation, il n'est pas impossible que vous puissiez y jouer pendant certains week-ends de stress test. On ne sait pas exactement quand ceux-ci auront lieu. Mais le plus important, c'est le jeu en lui-même. Comment est-ce qu'il tourne? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est agréable? On sait que Blizzard a vraiment une capacité pour amener des jeux qui sont parfois réservés à une niche, à un public beaucoup plus large et un public de débutants dans cette catégorie de jeux. Et donc, le grand pari pour Overwatch, c'est est-ce qu'ils vont réussir à faire ça pour le FPS? Alors, il y avait différentes stratégies établies pour essayer d'y arriver. Moi, j'aime bien les FPS, je suis pas un super grand spécialiste. Je parle souvent de Destiny, donc c'est un FPS console, mais j'y joue pas mal. J'ai joué à Call of Duty pendant quelques semaines il y a quelques années, enfin en multi de manière un peu intensive, etc. Donc j'ai de l'expérience, mais je suis pas, les FPS c'est pas mon truc quoi. C'est pas des jeux auxquels je joue, que j'attends. Je suis pas un gros fou de FPS, donc je suis pas vraiment capable d'enchaîner les frags comme un super pro player, comme un PGM. Généralement, moi, ce que je me disais, c'est bon, je vais prendre un perso qui est spécialisé dans les dégâts et je vais y aller et c'est moi qui vais faire des dégâts, quoi. Donc, je prenais, je sais pas, Tracer, Pharah, les personnages comme ça, si vous connaissez le jeu. Et je me suis dit, j'y vais. Et en fait, je suis pas assez bon pour ça. Donc, l'expérience était un petit peu frustrante. Par contre, pour ceux qui l'ont pas, il faut peut-être que je le précise pour ceux qui le savent pas, Overwatch, c'est un FPS compétitif à 6 contre 6 et uniquement en mode multijoueur. Il n'y a pas de mode solo du tout dans le jeu. Donc voilà, c'est un type de jeu assez particulier. Et ce que je disais, c'est que l'expérience était un petit peu frustrante quand j'essayais d'y aller et de tirer sur tout le monde et de jouer comme ça. Et en fait, j'ai pris ensuite des personnages de support et des personnages, ce qui s'appelle un tank. Il y avait Zarya et Mercy. Zarya est un tank et Mercy est une soigneuse. Et en fait, en jouant le tank, j'avais beaucoup plus de choses que je pouvais faire pour vraiment, vraiment contribuer à la progression de mon équipe. Je pouvais utiliser des boucliers temporaires sur mes coéquipiers. Je pouvais moi-même, en tant que tank, on a beaucoup de points de vie, donc on peut se mettre au milieu d'un combat et se mettre un bouclier sur soi-même aussi, et donc poser une menace substantielle à l'ennemi. Si on se positionne bien, ça peut vraiment être efficace. On a aussi la super qui peut aider à contrôler un point à un moment. Je faisais quand même des dégâts, je tuais des ennemis, mais le truc qui est hyper important, c'est que c'était pas le seul truc que je pouvais faire pour aider mon équipe. Et ça, c'était hyper agréable. Pareil pour Mercy. Mercy. Elle s'appelle Ange en français, mais c'est Mercy en anglais, qui veut dire Mercy.
Pitié.
Pitié. Voilà. Merci. Oh, merci.
Merci.
Donc, elle, c'est une soigneuse, mais une soigneuse pure. C'est un petit peu la manière dont je l'ai décrite dans mon émission spécialisée sur Overwatch qui s'appelle Overwatchers en anglais. J'ai dit, c'est un peu une soigneuse d'un prêtre d'un MMORPG sous acide. Elle a une capacité donc pour soigner un petit peu comme dans Team Fortress le docteur, enfin le médecin. Pour soigner les coéquipiers, elle peut aussi, en appuyant sur Shift, se téléporter, mais être attirée vers ses coéquipiers. Donc, ça veut dire que si on la maîtrise bien, on peut soit rester un petit peu planqué et soigner avec un faisceau qui traverse les murs et tout. Donc, on reste un petit peu planqué et on peut soigner les coéquipiers et vraiment changer le cours d'une partie. Soit carrément plonger au cœur d'une bataille. On peut utiliser cette capacité presque de téléportation régulièrement. Donc on se téléporte là où on a besoin de nous, on soigne un petit peu, on revoit quelqu'un qui a besoin de nous un petit peu plus loin, on se téléporte à nouveau. Il y a des réticules qui s'affichent partout pour indiquer quand on peut faire quoi avec nos différentes capacités. Pareil pour Zarya, si on peut mettre un bouclier sur quelqu'un, il y a un petit E qui s'affiche sur eux pour nous dire appuyez sur la touche E pour mettre un bouclier. C'est hyper intuitif. Et encore une fois, le truc que je veux sur lequel je veux insister, c'est que bon, j'ai fait je sais pas, peut-être 2 heures de jeu, c'est vraiment le tout début. Gardez à l'esprit que je suis un ancien employé de Blizzard, donc prenez ce que je dis avec les pincettes qu'il faut, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils réussissent le pari de rendre la chose relativement accessible. Et il n'y a pas de trucs comme les kill death ratio, le nombre de fois que vous êtes mort, le nombre de fois que vous avez tué, et du coup... ces chiffres-là n'ont plus tellement d'importance. L'important, c'est de suivre ce qu'il faut faire pour l'objectif, d'aider notre équipe. Et les défaites sont pas hyper, hyper frustrantes. En tout cas, je les ai pas ressenties comme ça encore maintenant. Un petit peu comme dans Hearthstone. Parfois, on est énervé quand on perd dans Hearthstone, mais c'est pas non plus comme dans un FPS ou un truc comme ça, où c'est genre « Ah merde, je suis encore mort !» ou c'est « On a réussi à faire quand même un petit peu quelque chose pendant la partie, on a réussi à progresser, on a réussi à bien jouer pendant un tour, là on peut avoir réussi à faire une belle action, etc. » Donc ça me paraît, ce pari de rendre la chose plus accessible, je sais pas si c'est accessible à tout le monde, mais le pari de rendre la chose plus accessible semble être au moins en partie réussi. Voilà pour mon petit rapport. Est-ce que je sais pas si t'as des questions, Dani, ou des choses que tu veux dire?
Non, j'ai hâte de l'essayer. Je suis pas tellement fan de ce type de jeu, mais je pense que j'essaierai de toute façon pour voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'il doit être fun. Voilà,
Ça me fait penser un peu à
Heroes
of
the Storm. C'est parce que c'est un jeu Blizzard que j'essaierai. Je sais pas si j'y jouerai toute ma vie, mais en tout cas, au moins quelques jours, quelques semaines, aucun doute.
D'accord. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser soit sur Twitter @notpatrick, soit sur Facebook @patrickbeja, soit même sur le site de l'émission frenchspin.fr. On va évoquer rapidement les news supplémentaires. Là, c'est la fin de nos gros sujets. On va évoquer les news supplémentaires pour qui ont eu lieu ces derniers jours et ces dernières semaines. Activision Blizzard a créé une division e-sport avec un ancien dirigeant de ESPN, cette chaîne de sport américaine hyper influente, et de la NFL, et un type qui travaillait à la MLG, la Major League Gaming. Et c'est une division supplémentaire d'Activision Blizzard, au même titre que Blizzard Entertainment et Activision Publishing. Donc c'est vraiment une division importante qui va se concentrer sur l'e-sport. Et à vrai dire, je me rendais compte en regardant la conférence de Sony, en regardant les jeux qu'il y avait à la Paris Games Week, j'ai l'impression que... par la force des choses et par les consoles, je me demande si on n'est pas vraiment au bord de la réalisation du fait que l'e-sport devienne quelque chose de vraiment généralisé. Évidemment, c'est très très gros aujourd'hui et les auditeurs qui écoutent cette émission le savent, mais encore plus. Je crois qu'ils sont en train de prévoir le coup pour dans les 2-3 prochaines années, quand ça va devenir vraiment, ça va arriver au grand public, quoi.
Ah bah complètement d'accord, et je pense que c'est déjà en fait en train d'arriver vers le grand public, hein. Quand tu vois le succès de League de CSGO par exemple, c'est incroyable et tu peux pas toucher autant de millions de joueurs si t'es pas déjà un minimum mainstream. Quand ensuite tu vois finalement des gens qui regardent des matchs, des parties classées de Hearthstone, ça prouve à quel point l'éventail est large, et je pense que ça parle à tous les types de joueurs, et que t'as pas besoin d'avoir une compréhension énorme du jeu pour pouvoir t'amuser à regarder des matchs.
Ouais, moi je crois que si ça arrive sur les consoles vraiment, et on a vu qu'il y a le PlayStation Network League ou un truc comme ça qui a été créé aussi, moi je crois qu'il va y avoir un truc avec les consoles peut-être, et que là ça va vraiment toucher encore plus de monde, parce que mine de rien les PC on sait que c'est important, etc., mais c'est des gens un petit peu plus spécialisés. Et c'est déjà large.
Tu sais que League of Legends, c'est plus de 70 millions de joueurs. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Non,
World of Tanks, c'est genre 40 ou 50 millions. Ouais, les consoles sont loin, loin derrière. Hein. C'est clairement, pour l'instant, c'est le domaine de prédiction du PC, les e-sports.
Ouais. Bon, ok. D'accord, tu m'as convaincu. mais la grande question, en fait, c'est est-ce que cette division va faire que des jeux Blizzard et Activision? Et à vrai dire, ça serait que des jeux Blizzard, presque, parce qu'Activision... Bon, remarque, il y a Call of Duty.
Oh, il y a Call of, ouais.
Ou est-ce qu'ils vont s'ouvrir à d'autres types de, enfin d'autres sociétés, d'autres jeux, je sais pas. Bon, c'est le tout début en tout cas. Il y a eu une offensive de Vivendi sur Ubisoft qui est entrée au capital il y a 2 semaines d'Ubisoft et de Gameloft. Bon, c'est Bolloré, hein, donc ça fait toujours un petit peu peur. Ils avaient 6,6% et 6,2% et ils sont passés en une semaine à 10,4% et 10,2%. Et ça a mené à énormément de spéculations sur une possible OPA de Vivendi sur Ubisoft et Gameloft. Visiblement, ils ont démenti. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils démentent ? Dieu seul le sait. Et ils parlent en tout cas d'une stratégie de d'une synchronisation entre les stratégies de entertainment entre leur portefeuille existant et le jeu vidéo. Bon.
Ouais, blablabla quoi, oui, on verra. Hein.
Ouais.
Pour l'instant, ça veut rien dire, ouais.
Mais tu crois que c'est possible que Vivendi essaye de racheter complètement Ubisoft? On sait que Vivendi était propriétaire d'Activision, d'Activision Blizzard, et qu'ils s'en sont séparés il y a quelques temps. Ils ont gardé participation, mais du coup, ils récupéreraient une énorme société de jeux vidéo.
Bah pourquoi pas, hein. Surtout que finalement ça dépend. Enfin j'imagine qu'ils ont tout analysé en termes de prix sur le rachat de ce qu'ils ont pris en capital et j'imagine que ça va être un investissement qu'ils estiment être profitable. Ensuite est-ce qu'ils vont faire une OPA ou pas? Bah il leur reste encore quand même pas mal de chemin à parcourir, mais je pense que l'effet de l'annonce c'est surtout d'éviter une flambée des prix et de gros écarts dans un premier temps. Ensuite ouais. J'imagine qu'ils vont peut-être pas s'arrêter à 10%.
On a beaucoup évoqué Warner qui a aussi une division jeux vidéo qui marche pas mal en comparaison. Et il y a des gens qui ont évoqué l'idée aussi que Ubisoft annonce ses prochains résultats, que les résultats soient pas incroyables. Mmh. L'action chute un peu et à ce moment, Bolloré sort de son embuscade.
Exactement.
Et jaillit sur les actions. Bon. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les frères Guillemot n'ont pas l'intention de se laisser faire. Ils s'étaient déjà débattus contre EA à l'époque, il y a quelque temps. Mais par contre, là, ils pouvaient évoquer l'aide du gouvernement contre un investisseur étranger. En l'occurrence, Vivendi, par contre, c'est des Français. Donc, ça serait plus difficile d'obtenir de l'argent du gouvernement pour ça. Même si ça n'avait pas été le cas à l'époque, mais... Ouais, à l'époque, en fait, ça. Ubisoft s'était débarrassé, enfin, avait vendu ses actions Gameloft. C'est des frères, hein, qui tiennent les deux sociétés. Ils avaient vendu leurs actions Gameloft pour se défendre contre EA. Mais là. Possesseur de Xbox One dont je fais partie, en plus de la joie de Halo 5 que j'ai reçu au moment où je devais partir pour la Paris Games Week, donc que je n'ai pas encore pu essayer malheureusement.
Non, tu l'as pas déjà terminé? Moi je pensais que la campagne était courte, donc là normalement t'avais le temps entre hier et aujourd'hui.
Écoute, je pensais le faire en revenant peut-être un peu ou ce matin, mais il y avait la conférence de Sony à re-regarder pour être sûr que j'avais rien raté, et puis un petit peu de Overwatch a testé aussi quand même pendant une demi-heure, donc malheureusement j'ai pas eu le temps, donc voilà, mais bon, bref, vous qui êtes possesseur de Xbox One, sachez que votre nouvelle interface et la rétrocompatibilité Xbox 360 arrivent le 12 novembre. On a une date, ça c'est une bonne nouvelle. Je voulais aussi évoquer quelques vieilleries, dont Shadow of the Beast qui a un nouveau trailer à la Paris Games Week.
C'est là que tu prends un coup de vieux quand même. Hein.
Ah ouais, clairement. Mais il sort le 26 janvier. C'était une exclusivité PlayStation. Il y en avait pas mal quand même des exclusivités PlayStation dans tout ça. Il y a Kickoff qui est visiblement en remake. C'est vraiment des vieilleries. Hein. Et Descent, pour ceux qui s'en souvenaient. Descent Underground, le retour de Descent. Tous ces projets sont pas encore sortis. Certains sont à différents états d'avancement. Shadow of the Beast est presque disponible, mais dans 3 mois. Kickoff, c'est Dino Dini qui était le créateur de Kickoff, le jeu de foot à l'origine, qui est en train de développer, il est en développement sur PlayStation 4 et PS Vita, hein, tu vois, tu dis qu'il n'y a rien sur PlayStation Vita. Ça sera quand même une musique dessus. C'est pas prévu pour être un concurrent de PES ou de FIFA, et il y a 4 personnes sur le projet, donc c'est vraiment un type spécial.
Effectivement, bon. Mais moi, je, Kickoff, honnêtement, c'est peut-être le seul jeu de foot sur lequel je m'étais vraiment bien amusé.
Bah oui, voilà. Et Descent, tu te souviens, pour ceux qui ne savent pas, tu te souviens de Descent?
Oui, bien sûr.
C'était
un des
jeu
rares
qui
jeux dans
était...
lequel je me suis perdu.
En fait, c'était à l'époque, justement, je parlais des débuts des jeux en 3D tout à l'heure. Il y avait, en fait, les jeux en 3D, c'était incroyable, l'idée de pouvoir se déplacer sur deux dimensions en 3D. Donc, il y avait effectivement des jeux où on allait en deux dimensions. Et ben, Descent, c'était genre, on était dans un vaisseau et on allait en trois dimensions. On se baladait, c'était un jeu de tir, en fait, comme un FPS, sauf qu'on était dans un vaisseau. Et on pouvait se balader dans les trois dimensions. Et on se perdait, mais on n'avait aucune idée d'où on était. Mais c'est marrant, c'est des bons souvenirs. Pour conclure cet épisode, je me suis dit que ça serait sympa de faire une sorte de petit question-réponse rapide avec les jeux de cette année de la période de Noël. Alors on va prendre octobre, novembre, décembre, enfin surtout octobre, novembre, on va se dire ce jeu-là, est-ce que je l'achète sans regarder, est-ce que j'attends pour voir ou est-ce que je l'achète pas?
Est-ce que c'est de la triche si je l'ai déjà et que je l'ai pas acheté? Je suis censé dire si je l'aurais acheté ou...
Oui, on va dire si tu l'aurais acheté, oui.
D'accord.
Voilà. C'est pas cool d'avoir des gens proches qui travaillent dans des sociétés de jeux vidéo. Ça fausse les calculs.
Ça fausse un peu la donne. Très bien.
Ouais, tu vois, moi, par exemple, je reçois aucun jeu gratuit. Bon, j'ai accès à certaines bêtas parfois, mais...
Non, on offrait rien.
Ah, c'est gentil, c'est gentil. Bon, alors, on va commencer Rock Band 4, sorti le 6 octobre.
Si j'avais des amis dans la vie, je l'aurais peut-être pris. Honnêtement, j'avais de bons souvenirs de quand on avait essayé le tout premier il y a 10 ans, enfin, je me souviens même plus. Mais j'en garde un bon souvenir. Maintenant, bon, je suppose que le jeu a pas dû énormément évoluer depuis, mais ça reste un jeu sympa entre potes.
D'accord. Donc, réponse, c'est
si j'avais des amis, je l'aurais pris. Voilà.
D'accord.
Et toi?
Donc, j'aurais voulu le vouloir, mais en fait, non.
D'accord.
J'ai pas le temps, il y a trop de trucs à faire.
Ouais, non, mais on parle dans un monde où t'as rien d'autre à faire de ta journée que jouer, évidemment. Hein. Oui, sinon, moi, ma liste de jeux sous Steam, elle m'occupe pour les trois prochaines années. Hein.
Ouais, bah non, quand même. En fait, peut-être Guitar Hero Live plutôt, qui est sorti le 20 octobre. Guitar Hero Live, j'aurais dit j'attends de voir, genre avec les reviews, oui.
D'accord. Bon, pour moi c'est un peu le même combat, mais ok, très bien.
D'accord.
Bon,
Dragon Quest Heroes sorti le 13 octobre.
Ouais, je l'aurais acheté, mais je l'ai eu gratuitement, mais je l'aurais acheté. J'aime bien Dragon Quest et en plus il était bien noté partout, sympa. Seul regret c'est qu'il n'y ait pas de mode multi coop.
Ouais. Alors moi je l'ai acheté parce que tu m'en as dit du bien, il y a d'autres personnes qui en ont dit du bien et je le regrette pas du tout. Vraiment, j'ai passé déjà je sais pas peut-être 10 heures dessus en 5 jours. Ouais.
J'attends le 2 avec impatience.
Mais
parce que dans le 2, ils ont annoncé justement qu'il y aurait du Japon l'année prochaine, donc probablement d'ici 2035 chez nous, mais c'était dans pas longtemps.
Ouais. Bon, franchement, une bonne expérience. C'est un Musou, donc un Romance of Three Kingdoms à l'Ouest, qui est un type de jeu très particulier. On en parle dans un.
Ils sont à l'Ouest, hein. J'ai pas compris.
Oui, en Occident, je veux dire. un type de jeu très particulier, très bien adapté à Dragon Quest, très sympa. C'est pas le jeu de l'année, mais sympa. Donc, on a dit Guitar Hero Live le 20. C'est un peu le même combat. Moi, j'aurais plutôt pris Guitar Hero Live d'après les reviews, c'est un style qui me plaît un peu plus. Yoshi's Woolly World qui est sorti le 16 octobre.
Je l'ai sur Wii U en fait.
Et
je le rachèterai peut-être pas. Sympa, mais sans plus.
Ouais, sans plus. Donc en fait, c'est un petit peu l'idée, nous, ce qu'on aurait fait pour essayer de donner une recommandation aux gens, quoi.
Ouais.
Tales of Zestiria. Yoshi's Woolly World, c'est peut-être non. Parce que justement, il faudrait que je le paye. Donc, je me dis, bon.
Ouais.
Tales of Zestiria.
Je n'aime pas trop les Tales en général. Sympa à jouer en coop. Donc, si j'avais un ami avec qui jouer, je le ferais. Sinon, au niveau de l'histoire et du scénar, en général, les Tales ne m'excitent pas vraiment. Donc, plutôt non.
D'accord. Moi, en fait, Yoshi, ça serait. Peut-être qu'un meilleur moyen de calculer ça, c'est est-ce que je me le fais offrir ou pas? Yoshi, oui. Je me le ferais bien.
Oui,
offrir.
Oui. Alors, Yoshi, je me le fais offrir. Ouais. Tales of, je m'en fous.
Ouais, Tales of, je m'en fous aussi un petit peu. J'aimerais bien, je suis curieux, mais pas assez pour ça. Assassin's Creed Syndicate, le 23 octobre.
Je m'en fous un peu.
D'accord. Moi, je me le ferais bien offrir. J'avais bien aimé Unity, mais pas assez pour... Le truc, c'est que sur Syndicate, les reviews sont tellement différentes. Il y a des gens qui disent c'est franchement pas génial. Et il y a des gens qui disent c'est le meilleur Assassin's Creed depuis des années. Donc, c'est
Dès que j'ai un moment, je vais y jouer parce que je l'ai aussi. Ah, mais je te dirais, mais je suis pas un super fan des Assassin's Creed en général. Et moi, je suis plutôt bourrin dans mon gameplay. Donc, les jeux d'assassins où il faut rester caché, regarder, se fondre parmi la populace, ça m'ennuie.
Ouais, moi peut-être pour Noël, je le mettrai dans ma liste Amazon de cadeaux potentiels que la famille peut offrir. Zelda Triforce Heroes, aussi sorti le 23.
Ouais, les critiques sont plutôt
moyennes.
Plutôt moyennes pour ce jeu-là. Je pense que à 3, ça peut être sympa, mais va trouver 3 personnes qui veulent s'asseoir dans un salon ensemble pour jouer à la 3DS. Donc plutôt non.
Ouais, moi un petit peu pareil, c'est le problème. Si on avait 12 ans et que on était à l'école avec nos 3DS avec des potes.
Voilà.
Ouais. Halo 5 sorti le 27.
Je me tâte toujours pour l'achat d'une Xbox. Plutôt non, parce que le mode campagne apparemment est moyen et qu'en multi ça m'intéresse pas des masses. Mais si je me prends une Xbox, je prendrai sans doute Halo.
Oui, c'est un petit peu dommage de pas prendre Halo.
Voilà, c'est uniquement parce que je gagne ma vie et parce que voilà. Mais si on devait me l'offrir, par exemple, Halo 5, je serais très content. Si vous voulez me l'offrir avec la Xbox en plus, c'est parfait, royal. je serais votre ami pour les deux prochains mois.
Deux prochains mois, pas mal, ça vaut le coup.
Classe.
Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, moi, Halo 5, je l'ai déjà, donc vous connaissez la réponse. Need for Speed, moi, d'après mon test dans la bêta, en fait, non.
Ouais, bah moi, je suis pas trop jeu de bagnole, donc je suis pas forcément la bonne personne pour en parler. Bon, je préférais jouer 5 minutes chez un pote pour voir, mais sinon, plutôt non. Ouais.
Call of Duty Black Ops 3. Need for Speed, ça sort le 2 novembre. Call of Duty, ça sort le 6 novembre.
Plutôt non, pareil.
Ouais, j'ai été très déçu par Advanced Warfare l'année dernière, donc je dirais non. Même pas en cadeau, c'est pas la peine. Bon, c'est aux US uniquement, mais le 6 novembre, il y a Yo-Kai Watch qui sort. Ça t'intéresse, ça, ou pas?
Non, pas vraiment, sans plus.
D'accord.
Et toi?
Pareil. Je suis curieux, mais encore, c'est la curiosité qui... C'est le genre de truc pour lequel j'essaierai une démo, mais pas forcément plus. Et si la démo me plaît, peut-être que j'irai plus loin, mais enfin, bon, Yo-Kai Watch, c'est un peu pour les enfants, j'ai l'impression. Un peu comme, comment il s'appelle? Pokémon, quoi.
J'adore Pokémon, alors fais attention
c'est bien
à ce que
tu dis. C'est pour les enfants. Fallout 4 qui sort le 11 novembre.
Je vais en faire, il y aura les bons nombres, mais honnêtement, je n'arrive pas à jouer aux jeux de Bethesda. Je n'en aime aucun depuis...
Même pas Skyrim ?
J'ai détesté Skyrim, j'ai terminé, donc je peux en parler, j'ai trouvé ça vraiment fade et sans intérêt. Le dernier jeu Bethesda que j'ai aimé, ça devait être Daggerfall, donc Elder Scrolls 2, et ça remonte à un moment, donc je dois pas tomber dans la bonne cible, et je préférais nettement le type de jeu qu'il y a dans Fallout 1 et 2. J'ai pas essayé New Vegas, dont tout le monde dit du bien, mais par contre le 3 m'avait beaucoup déçu, donc le 4, si on me l'offre, j'y jouerai une heure ou deux pour voir, mais sans conviction.
Ouais, je crois que c'est un peu pareil pour moi. Ouais. Pourtant, j'ai adoré Skyrim, mais bon, c'est pas la même chose. J'attends plutôt le prochain Elder Scrolls que Fallout. Moi, je suis plus dans cette catégorie. StarCraft 2 Legacy of the Void, qui sort aussi le 11 novembre.
Bah, je suis faible face au marketing de Blizzard, donc je l'ai préco.
D'accord, très bien. Pour ma part, je l'ai pas précommandé, mais je pense que je l'achèterai. J'ai toutes les versions collector. Enfin, forcément, quand j'y étais, je les avais comme une partie de mon salaire. Donc,
j'en ai une que tu n'as pas, je pense.
Laquelle ?
Diablo 2.
Ah oui, non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Rise of the Tomb Raider sur Xbox One le 11 novembre.
À voir avec l'achat de la Xbox. J'ai beaucoup aimé celui d'avant, qui était un très bon reboot, même si j'avais jamais aimé Tomb Raider avant. Je pourrais considérer l'acheter, ouais.
Ouais, moi c'est direct. Enfin, vous le savez, j'en parle depuis un an et demi.
Oui,
donc.
Toi, on sait que tu es fou de Lara Croft depuis le tout premier d'ailleurs.
Ah non, j'aimais pas les anciens. C'est vraiment le reboot qui m'a plu. Enfin, c'est marrant parce que le reboot de Tomb Raider est une copie de Uncharted, qui lui-même était une évolution de Tomb Raider les originaux. Donc vraiment, on peut pas accuser Tomb Raider de copie.
En parlant de ça, c'est vrai. Mais je préfère le script et les dialogues d'Uncharted qui sont plus intéressants et fun. Je préfère le gameplay de Tomb Raider, par contre.
Ouais, bon, c'est compréhensible. Star Wars Battlefront, le 17 novembre.
Non, j'attendais le mode campagne avec impatience, il n'y en a pas. Le mode multi, j'aurais pas assez de temps pour m'y investir, donc plutôt non.
Ah,
Même
moi,
si
je
je suis
crois
un grand
que...
fan de Star Wars et que j'irai voir épisode 7 dans les 2 jours ou 3 jours de la sortie.
Ouais, bah moi j'ai déjà acheté ma place pour l'épisode 7, mais
Évidemment.
enfin avec une carte de cinéma, c'est pas trop cher, mais bon, moi je crois que je vais, ça va être dans ma liste de Noël aussi.
Battlefront? Ah bah
Ouais.
écoute, parfait, je viendrai jouer chez toi
Ah
alors.
bah voilà, très bien, exactement.
Idéal.
Parfait. Mario Tennis qui sort le 20 novembre, Ultra Smash.
J'aimais beaucoup la licence. J'y jouais pas mal quand je travaillais, pardon, je jouais chez Nintendo. Je le prendrais pas à l'heure actuelle parce que il y a beaucoup trop de jeux à faire. Mais dans l'absolu, franchement, c'est un bon jeu sympa en général. S'il n'y avait pas eu 850 jeux qui me tentaient ou dans ma liste, je l'aurais peut-être pris, donc moyen.
Ouais, genre si tu te le fais offrir, ça va quoi.
Oh bah super. Si je me le fais offrir et que tu
Il
viens
est
jouer
dans
chez
ta
moi,
liste de
par
Noël.
exemple, une après-midi,
Ouais,
super.
d'accord. Et enfin, Xenoblade Chronicles X le 4 décembre. C'est le. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres jeux. Hein, on les a fait. On les fait pas tous,
Oui,
mais
sans compter tous les 850
ouais,
indés
c'est
qui vont
ça.
sortir.
Exactement. Mais donc Xenoblade Chronicles X toujours sur Wii U comme Mario Tennis Ultra Smash
Je
le 4
fais
décembre.
déjà le Xenoblade Chronicles normal sur 3DS, donc sans doute pas le X parce qu'il me reste encore bien 50 heures de jeu à faire pour le terminer, donc voilà. Donc ce sera
Ouais.
peut-être dans 2 à 3 ans,
Ouais.
pas d'ici là.
Moi, je crois que j'ai eu ma dose de japonaiserie avec Dragon Quest Heroes, parce que les menus interminables, les trucs où ils te disent nous allons, nous voudrions vous vendre ce machin. Êtes-vous sûr que vous voulez acheter machin? Confirmez que vous achetez machin. Vous avez acheté machin. Vous êtes content d'avoir acheté machin.
Oui, ça c'est
Ok,
avec des golds que tu
merci.
trouves dans le jeu, c'est même pas avec du vrai argent, donc
Ben oui. Ah non, non, non,
oui,
c'est
ça c'est infernal.
infernal.
L'ergonomie de toute façon dans pas mal de jeux japonais est quand même bien à revoir. Hein.
Ouais, c'est ça. Donc je crois que je me réserverai pour genre Persona 5 et qui pourtant est beaucoup plus cool que ça, mais Persona 5 ou Final Fantasy
Oui, Persona
15,
pour
ce
moi c'est
genre de choses
pareil,
quoi.
hein, je prends pas le 5 tant que j'ai pas terminé le 4, donc on en reparle dans 60
Ouf.
heures.
Ah ouais, non, mais le 4, t'en es à combien du 4?
Pour rien, j'ai dû peut-être jouer 10 heures, donc tu vois, j'ai encore
Mais tu
beaucoup
l'as
beaucoup de
sur
temps.
PlayStation 3?
Non, je l'ai sur Vita.
Ah mais t'as une Vita aussi, j'avais
Mais
pas
bien sûr que j'ai une
compris.
Vita.
Ah d'accord, oui moi j'ai une 20aine d'heures sur...
Je suis
ou 30
malheureusement une
heures, je sais
victime
plus.
du marketing, et en
Ouais.
général, dès que ça sort, que c'est neuf et que c'est beau, je suis
D'accord.
quasiment obligé de le prendre.
Ok, bon, eh bien écoute, merci bien pour cette sorte de résumé des sorties de ces 3 derniers mois de l'année et nos avis et merci pour tous tes commentaires sur toutes les news de cet épisode. Est-ce que avant de refermer la page de ce rendez-vous jeu numéro 24, tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet et ce que tu fais?
Eh ben, c'est facile. Moi, je travaille, bon, pour comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, je travaille pour Alienware, donc je suis pas très très loin de
Ah mais
l'univers
c'est
du
pour ça que
gaming.
tu défendais Mordicus les PC en fait. Nous avons
Oui, bon,
compris.
ça n'empêche pas, malgré tout, même si PC Master Race, évidemment, j'ai un peu les consoles que je
Oui,
veux
bien
chez moi.
sûr.
Je suis un gros joueur depuis toujours, donc ça tu le sais, et ça n'a jamais changé. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter, et mon tweet c'est @notdany, donc note NOT, Dany, Dany. C'est tout facile.
Magnifique, merci Dany. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, vous le savez. NotPatrick sur Facebook également. Vous pouvez aussi retrouver cet épisode et d'autres émissions sur frenchspin.fr. Vous pouvez aussi venir commenter l'épisode si on a dit des bêtises, si on a dit des trucs qui vous paraissent... complètement outrancier, n'hésitez pas à venir nous corriger. C'est sur frenchspin.fr, comme je le disais. Il y a également une émission sur Overwatch pour laquelle on a enregistré nos premières impressions, mais en anglais, comme je le disais, elle s'appelle Overwatchers, que je fais avec mon ami Gareth Weinsreul sur amove.tv. Donc vous pouvez retrouver ça là-bas. Et puis, bah, écoutez, pour la suite, on se retrouvera dans 2 semaines pour le prochain épisode du rendez-vous jeu. Et, entre parenthèses, si vous entendez cet épisode avant le 31, dans quelques jours, n'oubliez pas qu'il y a une rencontre du rendez-vous tech le 31 sur Paris pour fêter la première année de podcasting professionnel de ma part. Donc, si vous voulez venir vous joindre à nous, ça sera avec plaisir qu'on se rencontrera. Les détails sont aussi sur le site frenchspin.fr.
Et
Je
c'est
vous
Patrick qui
remercie.
offre la tournée.
Mais je n'offre rien du tout, monsieur. Moi, j'économise pour pouvoir acheter la Nintendo NX déjà. Donc voilà, c'est dit. Et la PlayStation VR. Bon, en tout cas, on se retrouvera, ça sera sympa. Et nous, que vous puissiez venir sur Paris ou pas, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode du Rendez-vous Jeu. Ciao à tous.
Au revoir.